Genève. Côté. Nature.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Genève Côté Nature. Nous sommes Émilie et Virginia, fondatrices de l'association de protection de la biodiversité NARIES.
Bonjour!
La nature et les animaux font partie intégrante de notre vie et sont une source de bonheur, de joie et d'émerveillement au quotidien. Dans le cadre de NARIES, nous cherchons à la sauvegarder et nous prenons la collaboration parce que nous estimons que les acteurs qui œuvrent dans ce sens sont nombreux, mais que si nous restons chacun dans notre coin, l'impact bénéfique de nos actions en est réduit, alors que si nous mettons tous nos efforts en commun, les choses changeront plus vite.
C'est dans cette ligne que nous avons décidé il y a bientôt 10 ans d'organiser des sorties nature une fois par mois pour emmener le public à la découverte d'espèces incroyables ou de milieux particuliers, mais aussi pour leur faire connaître d'autres structures qui travaillent pour la protection de la nature. Ces associations ou groupes de travail sont bien souvent gérés par des passionnés qui ne comptent pas leurs heures de travail et qui sont essentiellement bénévoles. Et oui, parce que les financements dans ce domaine de la protection de la nature sont bien trop rares et donc pour que les choses soient faites, il faut les faire même sans attendre un salaire à la fin du mois.
On revient ici à la notion de passion ou de folie à voir. Parce que pour accomplir un tel travail sans être rémunéré, il faut vraiment être passionné et un peu fou. Et ce n'est pas facile tous les jours, mais la joie qu'on en retire nous fait surmonter obstacle après obstacle.
Alors vous l'aurez compris, nous vous proposons aujourd'hui un côté passion. Nous allons rencontrer Christina Meissner, qui est une amoureuse de la nature dans son ensemble, avec tout de même un petit faible pour les hérissons. Alors bonjour Christina.
Bonjour.
Bonjour. Alors la nature pour toi Christina, c'est comme pour nous, elle est sacrée. Et ce depuis toujours, grâce à tes parents qui t'ont inculqué cet amour. On va essayer d'aller plus ou moins chronologiquement dans tout ce que tu as fait et la liste est longue. Alors pour commencer, as-tu vraiment planté un cèdre étant petite? Et est-ce que c'est lui qui t'a conduite vers des études de biologiste?
Alors, le cèdre, oui, il a été planté. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il est là, il a 60 ans comme moi. Et par contre, est-ce que c'est lui qui m'a inspirée? Je ne suis pas certaine. Je crois que l'inspiration est venue surtout de... Alors, ça va peut-être vous étonner, j'étais en plein désert. Et quand on est dans le désert, il n'y a pas beaucoup de plantes, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Puis quand on en voit une, elle est tellement précieuse. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, franchement, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis intéressée à la nature. Après, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un petit peu dans l'effet inverse, puisque mes études m'ont menée en Amazonie tropicale. Et là, j'étais obligée de me battre avec les plantes à coups de machette. Alors tout d'un coup, je me suis dit que non, c'était pas vraiment ça. Il me fallait un équilibre un petit peu au milieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je consacre ma vie à la défense de la faune et de la flore et de la qualité de vie au niveau local. On peut penser global, mais finalement, c'est au niveau local qu'on peut agir le mieux.
D'accord, alors c'est vrai que maintenant, tu travailles sur la faune et voilà la vie urbaine, comme tu le dis. Mais donc, il y a ce premier temps où tu t'es focalisée sur la flore en Amazonie. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as étudié pour ta thèse?
Il s'agissait en fait d'un diplôme en botanique tropicale. Ça a été un travail extrêmement intéressant parce qu'on se demandait si on pouvait trouver une autre méthode que de se baser sur ce qu'on appelle les caractères sexuels des fleurs, des plantes, pour leur détermination. Le problème, c'est qu'en Amazonie, comme dans toutes les forêts tropicales, les fleurs, elles se trouvent en haut, très très haut.
Inaccessible.
Et puis, il n'y a pas forcément des saisons comme chez nous. Donc, on se rendait compte que les populations locales reconnaissaient très très bien les arbres avec ce qu'on appelle les phénotypes, donc les caractères tels que le tronc, la couleur de la sève, tout ce qui est visible, mais pas forcément les fleurs. Et donc, on s'est dit, mais s'ils y arrivent, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une clé de détermination là-dessus?
Ah, fantastique!
Et en fait, le problème était que les phénotypes, justement, changent en fonction des conditions climatiques, s'il y a plus d'eau, moins d'eau, etc. Donc en fait, les populations locales reconnaissaient leurs espèces au niveau local, mais n'utilisaient pas forcément, chaque population n'utilisait pas forcément les mêmes critères. Ah. Et donc finalement, on n'arrivait pas à faire une clé de détermination aussi précise.
Oui, qui vaille pour tout le monde.
Qui vaille pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va encore plus loin parce qu'on se base sur l'ADN. Mais à l'époque, c'était vraiment, si vous connaissez les clés de détermination,
oui, oui.
On regarde le nombre de sépales, de pétales, etc.
Donc ensuite, tu as travaillé dans plusieurs institutions, la Fondation Franz Weber, l'Office fédéral de l'environnement, puis ProNature à Genève, qui était en fait à l'époque encore que l'Association genevoise de la protection de la nature. Et puis finalement, l'État de Genève, quel rôle tu avais dans ces différents endroits ?
Ben, ce qui m'a toujours motivée, c'était la protection de la nature, de la faune, de la flore. Et ça a été vraiment le fil rouge. La Fondation Franz Weber, c'était un peu à hasard. Et puis là, je me suis retrouvée à faire les premières conférences de la CITES sur la protection notamment des éléphants. C'était magnifique, comme de nouveau dans l'objectif. Ça faisait un petit peu moins rêver quand on se rendait compte qu'on faisait des kilomètres de papier pour arriver à changer une virgule, ouais. Et pour un résultat sur le terrain absolument déplorable. Donc, oui, c'était intéressant dans le sens où je me suis dit là que j'étais pas faite pour les grands raouts internationaux. Et puis que c'est bien beau de vouloir protéger, mais si on n'est pas sur place, c'est extrêmement difficile.
C'est ce qui t'a amené du coup à faire le ProNatura Genève, parce qu'au moins c'était local.
Bah oui, quelque part, j'ai eu la chance de monter en fait le bureau de ProNatura à Genève qui n'existait pas. Peut-être la première, on appelait ça une chargée d'affaires, équivalent d'une secrétaire générale. Et puis là, c'est clair que j'étais dans mon élément. On parle de Genève, on parle de ce qu'on peut faire à Genève. C'était extrêmement concret avec les réserves naturelles, avec la sensibilisation à la nature des enfants. Et puis aussi de pouvoir faire un magazine qui diffuse les idées de ProNatura. Donc, là, oui, concret, je me suis rendu compte que là, on pouvait vraiment changer les choses. On s'occupait évidemment de la nature et des cours d'eau et de la situation catastrophique dans les années, début des années 90, des cours d'eau, tant au niveau de la qualité que la quantité, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Malheureusement, comme problème, on ne change pas.
Il faut encore.
Et donc, ouais. On avait créé à l'époque ce qui s'appelle le collectif Coordination Rivière avec les associations françaises et suisses, plus petites que ProNatura, qui n'avaient pas forcément les structures adéquates pour monter des dossiers, etc. Et on a fait un premier proposition d'état des lieux et de plan d'action qui a été transmis à l'État à l'époque. Et en fait, c'est Robert Kramer, quand il est rentré au gouvernement, il a été élu en 98, qui s'est dit, moi je vais faire quelque chose pour les rivières. Et il a été chercher les forces là où elles étaient, sur le terrain. Et c'est comme ça qu'un certain nombre d'entre nous nous sommes retrouvés à travailler pour lui, parce qu'il a dit, au lieu de gueuler sur l'État à l'extérieur, venez m'aider à faire le travail de l'intérieur. Et puis moi, qui n'avais pas vraiment la mentalité d'une fonctionnaire, en tout cas, ce que j'imaginais être fonctionnaire, j'y suis allée, et je n'ai pas été la seule. Mais voilà, donc c'est un petit peu ce qui m'a portée jusqu'à l'État.
Et après ces grosses structures, tu es retournée vers le monde associatif en devenant secrétaire générale de l'association Pic Vert qui s'occupe de protéger les quartiers de villas et de lutter contre une urbanisation excessive du canton. Parle-nous un peu de vos actions.
Avant, il y a eu le départ de Robert Kramer qui est parti comme conseiller aux États, si vous vous rappelez, en 2010. Mm-hmm. Et l'État est devenu une grosse machine dans ses premières années 2000. Elle est devenue une très grosse machine, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées, beaucoup plus, comment dire, pleines de directives, chacun dans sa boîte, etc. Ça ne me plaisait plus, je ne me voyais pas continuer comme ça. Et puis, comme j'avais quand même travaillé pendant 10 ans pour un conseiller d'État, notamment à faire ses discours, je me suis dit que je pouvais peut-être en faire moi-même. Et c'est là que je me suis lancée en politique. Et accessoirement, Pic Vert, j'étais déjà membre parce que je suis propriétaire de villa et j'avais quand même besoin d'avoir un revenu annexe. Et on est venu me chercher pour devenir secrétaire générale et je me suis dit que là aussi, je pouvais peut-être prêcher la bonne parole et amener plus de conscience sur la biodiversité auprès des propriétaires de villa, parce que la villa, ça me suffit avec les tuyas et les laurels autour. C'est vraiment pas ma vision de la zone villa.
On est tout à fait d'accord avec ça. Donc vraiment une grande facette de sensibilisation.
Toujours.
Au milieu de tout ça, on croit savoir qu'il y a une histoire de petite chevêche il y a une vingtaine d'années qui t'a fait les yeux doux et qui a entre autres contribué à bouleverser la manière dont tu voyais les choses. Elle t'a notamment fait lancer dans une action pour la sauvegarde des vergers genevois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre ?
Oui, c'était à Bardonnay, dans la campagne genevoise. C'était un des premiers dossiers qui était sur ma table en tant que secrétaire générale de Pronatura. C'était l'autoroute de contournement de Plan-les-Ouates. Et en fait, je lisais cette étude d'impact qui, en gros, je caricature à peine, disait en fait, c'était l'hiver, on n'a rien vu, donc il n'y a rien à sauver. Et
bravo.
Moi, ça m'a vraiment interpellée. Et je me promenais justement pour voir s'il y avait franchement rien à sauver sur ce coteau de Saconnec d'Arve extraordinaire. C'est là que j'ai vu ces vergers. Et puis le hasard a voulu qu'au milieu du lierre, là, il y avait des yeux d'or qui me regardaient. Oh. Et c'était une petite chouette chevêche.
Magique.
Et je l'ai vue et j'ai dit, je te promets que je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Et je me suis lancée corps et âme là, dans ce dossier. On a monté, en fait, tout d'un coup, en tant que Pronatura, on a dit, ça va pas, ça n'est pas une étude d'impact. Il faut véritablement faire des compensations parce qu'il y a de la richesse, il y a de la valeur dans ce coteau qui abritait. En fait, c'était le dernier coteau qui abritait autant de vergers à haute tige. Et les vergers à haute tige sont un des habitats de prédilection, justement, de la chouette chevêche. Et c'est comme ça qu'on a écrit à l'État. À l'époque, c'était le conseiller d'État Christian Grebet qui s'occupait de territoire et des travaux publics. Et il nous a convoqués dans son bureau, en fait. Il m'a convoqué et il a dit, qu'est-ce que vous proposez ?
Il y en a qui sont à l'écoute quand même. Hein.
Exactement. Je dois dire que j'avais beaucoup de respect pour lui parce que j'étais interloquée de sa réactivité. Et d'autre part, de nous dire, d'accord, alors maintenant, qu'est-ce que vous proposez ?
Quoi ?
Et moi, j'ai dit, mais faut sauver ces vergers. Et il a dit, je vous donne un mois. Vous arrivez avec un projet.
Waouh.
Alors là, c'était un sacré défi.
J'imagine.
Parce que
un
mois c'était court, mais on arrivait un petit peu en bout de course, veut dire, par rapport au dossier. C'était un dossier route nationale, c'est une autoroute dont on parle. Et puis là, j'ai cherché quelqu'un qui savait encore s'occuper de vergers. Il n'y en avait qu'un seul qui était, parce qu'il faut avoir des gens qui savent s'occuper de vergers à haute tige, et c'était Nicolas Varidel. Qui devait justement faire ce qu'on appelait une astreinte, parce qu'il ne voulait pas faire son service militaire à l'époque, il n'y avait pas encore le service civil. Avec lui, on a monté cette action de sauvegarde des vergers traditionnels qu'on a proposé au conseiller d'État qui nous a donné le financement pour le faire. En même temps, c'était une occasion extraordinaire parce que les dossiers route nationale, donc de la Confédération, il y a des procédures qui sont strictes. Et quand vous faites quelque chose, ça devient vraiment force de loi. Donc après, quand il y avait d'autres mesures, comme la renaturation du petit nom de la Bistoquette, qui a d'ailleurs été resauvée une deuxième fois récemment à cause de la route qu'on voulait lui faire passer dessus. Et puis, il y avait évidemment la sauvegarde de la chevêche avec l'association Nos Oiseaux, qui, eux, allaient faire la pose de nichoir, le bagage, le suivi. Donc, on s'occupait de l'espèce et de l'habitat en général. Et donc, on a réussi, grâce à cette compensation, on va dire, à l'autoroute de contournement, à sauver tout un paysage et pas simplement un type d'habitat ou une espèce. Mmh. Et ça, j'en suis quand même très fière.
Il y a de quoi.
Et quand on devait faire la plantation de vergers communaux ou bien la revitalisation de vergers, même privés, toujours on l'a fait avec les enfants. Parce que, vous avez parlé de mon cèdre. Mmh. Là, c'est la même chose. Quand on plante un arbre en étant petit, je peux vous garantir qu'il y a des enfants devenus grands et adultes aujourd'hui qui se souviennent encore du cerisier.
Bien sûr.
Et qui ont été, dit, tu vois, moi, je l'ai planté.
Ah,
et ça, c'est l'enracinement.
Oui.
On n'aime que ce que l'on connaît. Vous le savez, ça.
Tout à fait, exactement.
Et
on le dit souvent, d'ailleurs.
Ouais. On n'aime que ce que l'on a appris à connaître. Et voilà. Si on peut en plus voir pousser, Mais après, vous êtes capable de vous enchaîner à cet arbre pour le sauver.
Alors, nous voici arrivés à la pause musicale de cette émission. Christina, tu as choisi d'écouter « Comme un arbre » de Maxime Le Forestier. Alors, de quoi parle cette chanson ?
Ben, ça parle des arbres coincés entre béton et bitume, dont leurs racines n'arrivent pas à vivre, ne peut pas se déployer. Et puis, si j'ai commencé par m'occuper des vergers à la campagne, ben, aujourd'hui, je m'occupe justement des arbres dans la ville.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines on les recouvre de gris, comme un arbre. Comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'a des rues pour bâtir où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort. Barricade de mon corps et du feu de mes brindilles, comme un arbre dans la ville.
C'était donc « Comme un arbre » de Maxime Le Forestier. Nous sommes de retour dans Genève Côté Nature, l'émission de l'association NARIES. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté passion qui nous fait découvrir Christina Meissner, qui est une fervente défendresse de la nature. Alors, on a parlé de cette rencontre avec la chouette que tu as eue, mais une autre rencontre importante dans ta vie, c'est un hérisson que tu as soigné et qui a tracé une autre ligne de ton parcours, menant jusqu'au centre où nous sommes aujourd'hui, qui est en fait à la fois ta maison et un centre, SOS Hérisson. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Alors, je dirais que c'est aussi une rencontre. Malheureusement, celle-là, c'était une rencontre moins sympa puisque le hérisson était blessé sur la route. Je l'ai amené chez le vétérinaire qui l'a euthanasié. J'en ai rencontré un autre aussi mal en point que j'ai amené chez le vétérinaire qui l'a euthanasié.
Okay.
Et à la troisième fois, je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Et j'ai pris ce hérisson, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, j'ai lu. Et je me suis dit que ce qui manquait, c'était effectivement de personnes qui soient prêtes à consacrer du temps pour les sauver. Parce que les vétérinaires, je l'ai appris plus tard, s'ils les euthanasiaient, c'est bel et bien parce que... Alors, je vais faire une comparaison terrible, C'est comme quand vous allez chez le docteur, il va vous opérer, il va vous donner les pilules, mais après, il faut vous débrouiller tout seul, il faut que quelqu'un vous... L'infirmière va donner les soins, etc., qui vont finalement vous sauver. Les VTO, c'est la même chose que les docteurs, c'est pas des hôpitaux.
Bien sûr.
Donc, c'est ça qui manquait.
Il n'y a pas le soin en continu après. Ouais.
En continu. Et puis, c'est là-dedans que je me suis lancée. Très honnêtement, je pensais pas que je le ferais encore 16 ans plus tard et que je serais malheureusement un peu seule à le faire dans toute la région. Et ça, c'est quelquefois un peu pénible. Mais, j'ai des bénévoles qui m'aident. Et ça, c'est très précieux. D'ailleurs, vous en savez quelque chose du bénévolat.
Oui. Alors, donc tu pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Combien d'animaux peux-tu accueillir ?
C'est un défi. Je pensais au départ que 8, ça suffisait. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 30 en soins.
T'as pu pousser les murs ?
On va dire que c'est une question d'organisation, de structure. Mais également, j'ai de la peine à dire non. Aujourd'hui, je suis obligée de dire non parce que je dépasse la trentaine. Et à un moment donné, c'est même pas une question d'espace, mais une question de disponibilité.
Bien sûr.
Dans la tête et de temps. Et ça, c'est un peu ma limite parce qu'autrement, ce serait évidemment no limits.
Bien sûr. Et alors, quel est le parcours d'un hérisson que tu recueilles ? Donc, on te l'amène en général parce qu'il est blessé justement sur la route ou...
Oui, alors, il vient soit de vétérinaire, soit de particulier. Pour la petite histoire, aujourd'hui, j'ai été chercher un hérisson quasiment en prison, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il est venu comment on appelle ça ? C'est de la maison d'arrêt de Villars.
Ah !
Et qu'il avait trouvé dans leur petit espace. Et donc, évidemment, je les examine. La plupart, ça dépend de l'époque de l'année. Il n'y a plus tellement de petits, il y a des ados maintenant. Les ados qui ont été fichus dehors par leur maman et qui doivent se débrouiller tout seuls. Et on est à la période où le froid commence et ils ne savent pas s'y prendre. Il y a un peu moins à manger. Et donc, leur donner de la chaleur, de la nourriture et les faire grossir... C'est ce qui est nécessaire. Après, il y a tous les blessés. Ceux-là, ils arrivent toute l'année, malheureusement. Que ce soit par des débroussailleuses à fil, dans les jardins. Faut dire que ceux qui se font shooter par les voitures sont malheureusement, subissent un choc mortel. Mais au-delà de ça, il y a toutes les maladies qui suivent un affaiblissement. Qui font que le hérisson va sortir le jour, qui va rencontrer des dangers supplémentaires, les corneilles qui les piquent, qui vont permettre de faire une blessure dans lesquelles vont se mettre les œufs de mouche, des parasites, et affaiblir encore plus le hérisson. Et c'est un peu la descente catastrophique. Et donc voilà, moi je reçois
des hérissons blessés. Tu le soignes dans la mesure du possible, voilà.
Et après, ils retournent soit dans leur jardin d'origine, si celui-ci est adéquat, soit ils sont adoptés par des gens qui ont un jardin adéquat. Et ça me permet de sensibiliser justement ces propriétaires de jardins au fait qu'ils sont les gardiens de la biodiversité, ils sont responsables de leur petit bout de terre et qu'ils doivent le rendre idéal pour la biodiversité. Et laisser des coins sauvages, laisser des tas de feuilles, des tas de bois, etc., qui vont permettre aux insectes décomposeurs de se développer et qui vont servir à bien d'autres que le hérisson. Mm-hmm. Les insectivores, et ça c'est les reptiles, les batraciens, les oiseaux. Et donc en fait, à travers le hérisson, c'est toute une biodiversité qu'il sauvegarde sur un petit morceau de terrain, et chaque mètre carré compte.
Mais il y a aussi des gens qui peuvent adopter un hérisson, mais sous contrôle, et après que tu sois sûr que ce soit un endroit adéquat ou...
Bien sûr, il y a un formulaire d'adoption, ce qui me permet de vérifier où se situe le jardin. Et ça, c'est le plus important, parce que je ne vais pas relâcher en pleine ville ou à côté d'une route à grand trafic un hérisson qu'on a mis beaucoup de temps à sauver. Et puis, comme je vous dis, c'est aussi une question de sensibilisation. Les gens qui s'inscrivent, en général, sont motivés. Donc ça, c'est évidemment l'adoption, c'est un peu un symbole, mais parce qu'ils sont des animaux libres et sauvages.
Bien sûr.
Et ils doivent retourner à cette liberté. Mmh. Et voilà.
D'accord. Alors, on en parlait en tout début d'émission, dans notre introduction, donc avec Nariès, on essaye de prôner la collaboration. Et d'ailleurs, nous, on t'a rencontré en recherchant les structures qui travaillent pour la protection de l'environnement sur Genève, dans le but d'organiser une sortie nature. Et quand on t'a demandé pourquoi tu avais besoin d'aide, tu nous as parlé pour le nettoyage des cages. Du coup, ni une ni deux, on a organisé une sortie qui a eu pas mal de succès et on a amené une quinzaine de paires de bras pour t'aider dans ce nettoyage. Donc, en dehors de ça et des quelques bénévoles, t'as dit que t'étais quand même beaucoup toute seule. C'est colossal, hein, un nettoyage comme ça. D'habitude, tu le fais seule.
Vous voulez pas revenir.
Mais ça peut s'organiser avec grand plaisir.
Ça peut s'organiser en 2021. On fera une sortie hérisson, bien sûr.
Non, c'est vrai. Donc, tu recherches des bénévoles qui te donnent
non.
un coup de main.
Non, des bénévoles qui viennent faire le nettoyage des cages, le nourrissage quotidien, j'en ai.
D'accord.
D'ailleurs, c'est des fidèles de chez fidèles. Parce qu'il y en a certains, ça fait plus de 5 ans qu'ils le font et qui reviennent avec grand plaisir. Après, ben, vous avez participé à ce qu'on appelle le nettoyage, les affonds. Il faut quand même le faire de temps en temps.
Alors, avec tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est dur de croire qu'on n'a pas encore parlé de tout te concernant. Et même si tu as déjà un planning chargé avec tout ça, tu as apparemment trouvé une manière de rallonger les jours et les semaines. On veut tout à fait le tuyau parce que nous, on n'y arrive pas. Et tu es très active du côté politique. Alors là, c'est moins notre domaine, mais puisque tu dis toi-même que tu rêves d'une Genève la plus verte possible et que bien que sauver quelques arbres ou quelques piquants peut paraître dérisoire, c'est notre substance elle-même, je pense qu'on a certaines lignes de pensée en commun. Quels sont tes engagements concernant la nature à Genève ?
Alors, comme je vous ai dit, après avoir travaillé pour un homme politique pendant 10 ans, je me suis dit que j'étais capable d'écrire mes propres discours. Et puis, un peu naïvement, je me suis dit, mais c'est là le pouvoir. Et en fait, je suis très déçue, je dois dire, après, ça fait ma 3e législature, parce que les textes politiques, à part les projets de loi qui sont contraignants, et encore, tout l'engagement politique a toujours été tourné vers la protection de la nature et de notre cadre de vie, parce que pour moi, c'est indispensable. Et donc, j'en ai déposé des motions, et j'ai même fait des projets de loi. Je n'en citerai qu'un seul dont je suis très fière, c'était d'introduire dans la législation l'obligation de la concertation. Mais quand je vois comme elle est appliquée aujourd'hui, je me dis qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Et c'est là que je retourne quand même de nouveau vers le milieu associatif en disant « le politique tout seul, il ne fait rien s'il n'y a pas la volonté de la base, volonté des gens ». Qui sont dans les associations, dans les quartiers. Donc en fait, il faut que la pression, elle vienne de partout. Et c'est pour ça que je travaille, oui, en politique, parce que c'est un relais, mais c'en est un parmi tant d'autres. C'est nous, citoyens, par notre action, que ce soit chez nous, que ce soit à travers le milieu associatif, qui pouvons changer les choses. Il faut avoir envie de le faire. La politique est là pour donner un coup de pouce, mais seule, elle ne peut rien imposer.
Mais nous, de notre côté, seuls, on ne peut rien faire non plus. On a besoin de la politique. Il faut que ça soit,
une collaboration. Ouais. Tout à fait.
Et c'est ce que je regrette souvent en politique, c'est que c'est très partisan. Mm-hmm. On va refuser un texte, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il vient de la gauche, de la droite, de machin qu'on n'aime pas.
Ouais.
Et ce n'est pas ça.
Il faudrait pouvoir le fond réellement.
Nous sommes élus pour être au service des personnes, de notre environnement et de la qualité de vie. Et c'est ça qui devrait être motivant. Donc moi, je ne peux pas me contenter juste de la théorie ou de textes politiques. J'ai besoin d'être dans le projet, dans le concret. Et c'est pour ça que j'ai un centre de soins pour les hérissons et que je m'engage au niveau de la construction, au niveau des jardins, etc. Parce que c'est là qu'on peut voir vraiment des résultats.
Super. Alors, on arrive gentiment à la fin de cette émission. Il est temps de réécouter le son de Benoît que vous avez eu en quiz sur les réseaux sociaux depuis vendredi. s'agissait donc d'un hérisson qui feule, qui souffle, et ce hérisson s'appelle Magawa. Ça a été enregistré ici même à SOS Hérisson.
Alors Christina, une dernière question. Si nos auditeurs trouvent un hérisson, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose eux-mêmes ou est-ce qu'ils doivent d'abord t'appeler ou appeler le CRR ?
D'abord, consulter le site SOS Hérisson, la page d'accueil, les foires aux questions répondent, j'espère, à la plupart des questions. En gros, un hérisson, si on le trouve en plein jour, c'est qu'il a froid et il faut lui donner de la chaleur. Donc il faut impérativement le rentrer dans un grand carton, une grande caisse, lui mettre de la chaleur directe, une bouillotte. Si on n'a pas de bouillotte, on prend une bouteille en plastique remplie d'eau chaude avec du papier ménage autour, qu'il puisse se blottir véritablement contre. Et une fois qu'il aura repris de l'énergie, à ce moment-là, il pourra manger, boire et reprendre des forces.
Et ne pas donner de lait, parce que c'est voilà, de l'eau, ça va très bien, et des croquettes pour chat.
Croquettes ou pâté pour chat.
Très bien.
Alors Christina, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission.
Donc c'était la dernière émission de cette année. Nous n'avons pas d'activité cette semaine chez Nariès, mais nous vous souhaitons à tous une merveilleuse fin d'année, de fantastiques moments en famille, d'incroyables observations peut-être durant ces vacances. N'hésitez pas à consulter le site de Nariès, www.nariès.ch, pour découvrir le programme des sorties nature et autres activités de Nariès pour 2021. Et peut-être voudrez-vous nous soutenir dans notre travail en devenant membre de l'association.
Au revoir Christina et bonne année à tous.
Bonne année.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.